Voilà, chers amis, c'est une joie pour Madeleine et moi d'être à nouveau parmi vous en cette occasion de vacances. On est un petit peu moins nombreux, mais nous sommes là. Nous sommes là pour chanter ensemble, et c'était si bon de le faire, pour prier ensemble aussi. Combien de ces chants étaient des prières qui sont montées vers le Seigneur, prières de louange et prières aussi de reconnaissance pour tout l'amour que le Seigneur a pour nous. Et puis nous sommes là aussi pour lire sa parole, la Bible. Vous savez que il y a des passages de la Bible que nous connaissons par cœur, presque au mot à mot. Hein, je pense au psaume 23 par exemple. Ces passages que nous connaissons par cœur, c'est bien, nous les avons dans le cœur. Et quand nous lisons notre Bible en suivant régulièrement et que nous tombons sur ces passages, nous posons la question quelquefois, est-ce que ça vaut la peine de les relire puisqu'on les connaît déjà? Alors, j'ai été très marqué dans ma jeunesse par le père de Monsieur Nicole Monsieur Nicole que vous connaissez, son père Jules Marcel Nicole, à l'Institut biblique de Nogent, nous disait, il faut lire toute la parole de Dieu, même les généalogies, sans manquer un mot. Alors lui le faisait, je ne sais pas si vous le faites, ça m'est arrivé, mais c'est quelquefois un problème quand même, hein. Surtout au début du premier livre des Chroniques, par exemple, où il y a plusieurs chapitres, ce ne sont que des généalogies. Lui les lisait mot à mot, et il disait, toute la Bible est parole de Dieu, et il y a toujours quelque chose qui nous parle. Alors, je lis aussi la Bible régulièrement et en suivant, c'est un très bon exercice. Et dernièrement, en lisant l'Évangile de Luc, je suis arrivé au chapitre 10 sur la parabole du bon Samaritain. Voilà un texte que nous connaissons presque par cœur. Et je vous avoue avoir hésité. Est-ce que je ne vais pas sauter ce passage puisque je le connais par cœur? Me souvenant des exhortations de Monsieur Nicole Père, je me suis dit, il faut le lire. Alors, nous allons le lire ensemble, n'est-ce pas? Même si nous le connaissons bien. C'est dans l'Évangile de Luc, à partir du verset 25. Voilà. Voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Et il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain ?» Alors Jésus reprit la parole et lui dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva au même endroit. Il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » Et le docteur de la loi répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Eh bien, va, et toi, fais de même. » Donc voilà ce passage, tellement connu. Alors, je l'ai relu, et puis, bien sûr, comme souvent quand on relit ces passages bibliques, il y a un certain nombre d'éléments qui m'ont surpris, qui m'ont frappé, qui m'ont même choqué. Reconnaissons que dans cette histoire si connue, il y a un certain nombre de détails qui sont tout à fait scandaleux, tout à fait choquants dans le texte. D'abord, cette histoire des brigands qui détroussent un voyageur, n'est-ce pas ? Et puis, le roue de coup et le laisse à demi-mort. Bon, quand on vole un porte-monnaie, c'est pas la peine de tuer les gens. Ça arrive, hélas, mais c'est vraiment pas la peine, n'est-ce pas ? C'est un petit peu la violence gratuite. C'est quelque chose qui nous fait horreur, n'est-ce pas, quand on a pris connaissance de ce qui s'était passé ces derniers mois, dans les attentats, etc. Mais pourquoi cette violence ? On appelle ça la barbarie aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est quelque chose d'immensément choquant. Et ce pauvre homme-là qui descendait de Jérusalem jusqu'à Jéricho, non seulement on lui a volé sa bourse, mais en plus, on l'a battu, on l'a laissé à demi-mort sur le bord de la route. C'est quelque chose de révoltant, de choquant. Et la suite du texte nous conduit à encore plus de révolte, en quelque sorte. Voilà le prêtre et le lévite, n'est-ce pas ? C'était pas n'importe qui en Israël, c'était quand même des gens, c'était l'élite. De la population, n'est-ce pas ? Un prêtre, un sacrificateur et un lévite. Et le texte est très sobre, tous les deux, ils voient. Et ils passent outre, ils se détournent. Bon, c'est quelque chose d'inacceptable. Bon, c'est vrai que les Juifs avaient une grande sensibilité à la souillure, n'est-ce pas ? Dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, au chapitre 5, par exemple, il est écrit que si, par hasard, on entre en contact avec un cadavre d'un animal impur, eh bien, on est souillé et il faut offrir un sacrifice pour retrouver la pureté, n'est-ce pas ? Toucher un mort faisait que on était impur pendant 7 jours. Le 3e jour, il fallait se purifier avec une eau spéciale, et le 7e jour aussi. Et si on ne le faisait pas, on était rejeté du peuple d'Israël. Donc les Juifs avaient, encore aujourd'hui d'ailleurs, une grande sensibilité à la souillure, n'est-ce pas ? C'est le livre des Nombres aussi qui nous rapporte cette affaire de contact avec un cadavre. Et pour les sacrificateurs, n'est-ce pas ? C'était encore pire. Ils n'avaient pas le droit d'assister à des obsèques, seulement des obsèques des proches. Et dans ce cas-là, pendant 7 jours, ils étaient impurs et ils devaient offrir en sacrifice un mouton, une brebis, pour se purifier. C'est le chapitre 44 du livre d'Ézéchiel qui nous rapporte cela, n'est-ce pas ? Alors, on comprend la réaction de ce prêtre et de ce lévite face à ce cadavre. Mais c'était pas un cadavre, il était à moitié mort. Mais bon, de toute façon, peut-être que ce sacrificateur et ce lévite étaient en route vers Jérusalem pour leur service dans le temple. Donc il n'était pas question de toucher un cadavre, n'est-ce pas ? C'était trop grave. Pendant 7 jours, ils auraient été impurs et ne pouvaient pas donc exercer leur ministère, si vous voulez. Alors, on le comprend, mais ça reste choquant. Quand on voit un homme qui est en train de mourir, il faut quand même lui porter secours. Même notre loi, n'est-ce pas, condamne ceux qui refusent de porter secours, n'est-ce pas ? Le refus de secours à quelqu'un qui en a besoin. Alors, mais quand même, c'est assez choquant, n'est-ce pas ? C'est assez choquant. Hein, c'est un petit peu comme si un pasteur évangélique en route pour le culte, rencontre un accident avec quelqu'un qui baigne dans son sang et tout, et file parce qu'il ne veut pas être en retard en arrivant au culte. Hein. Mais voilà que quelqu'un, par exemple, un islamiste en boubou, etc., arrive avec sa voiture, lui s'arrête, il prend ce blessé, le met sur le siège arrière, tant pis pour les marques de sang sur le siège arrière, l'emmène à l'hôpital, attend aux urgences avec lui, prend soin de cet homme, etc. N'est-ce pas ? Il y a là quelque chose de choquant. Effectivement, c'est un Samaritain. Je pense que qui a secouru cet homme. Je pense que les Juifs, en entendant ça, et Jésus raconte cette histoire à un docteur de la loi, n'est-ce pas ? Un scribe qui avait d'ailleurs très très bien répondu à Jésus. Quand il entend que c'est un Samaritain qui a secouru cet homme, il devait être très très choqué. Parce que les Samaritains étaient vraiment totalement méprisés par le peuple juif. On ne passait en principe pas par la Samarie. Et juste le chapitre avant, dans notre évangile, voilà que Jésus et ses disciples arrivent à un village de Samaritains et les gens du village n'ont pas voulu recevoir Jésus. Les disciples étaient furieux. Ils ont dit au Seigneur, mais est-ce que tu veux pas qu'on prie pour que la foudre descende sur ce village et les liquide tous, n'est-ce pas ? Ils étaient absolument furieux. Vous voyez l'atmosphère. Et quelques temps après, Jésus raconte cette histoire. Il y a des choses très choquantes dans ce récit, n'est-ce pas ? Même tout à la fin du récit, n'est-ce pas ? Au verset 37, la réponse de Jésus, en finale, la conclusion, eh bien, va et toi fais de même. Va et toi fais de même. On retrouve le même verbe que tout au début de l'histoire, au verset 25, et vous vous en souvenez, la question du docteur de la loi, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Eh bien, la réponse de Jésus, tout à la fin, n'est-ce pas, en inclusion, va eh bien, et toi fais de même. En quoi est-ce choquant ? Pour des oreilles évangéliques, c'est un peu choquant, parce que c'est le salut par les œuvres, n'est-ce pas ? Si vous voulez avoir la vie éternelle, c'est simple, vous allez vous arrêter et vous allez secourir ceux qui ont besoin de vous. Voilà comment avoir la vie éternelle, n'est-ce pas ? Alors, c'est sûr que nous ne prenons pas cette histoire comme ça d'habitude. C'est vrai que ça nous exhorte à avoir pitié des autres, à être animé de miséricorde, n'est-ce pas ? Mais le vrai sens de tout ça, ce qui est en jeu, c'est la vie éternelle. Va et toi, fais de même, n'est-ce pas ? Et c'est un problème. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on est honnête, si on s'y arrête, c'est pas simple, n'est-ce pas ? Et le docteur de la loi l'avait bien compris, puisque au verset 28 et 29, n'est-ce pas, il dit, quand Jésus lui dit, eh bien, voilà, fais cela et tu vivras, lui voulant se justifier, dit à Jésus, mais oui, qui est mon prochain, n'est-ce pas ? C'est pas simple. Donc dans ce texte, il y a un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait choquants, tout à fait étonnant, mais il y a aussi des choses un petit peu bizarres, n'est-ce pas ? Il y a quelques semaines, nous nous trouvions ici, et puis Frédéric a raconté cette histoire aux enfants. Et il leur a fait remarquer la réponse, la question de Jésus après avoir raconté cette histoire, en mettant en évidence que c'est tout à fait surprenant. Le docteur de la loi avait dit, mais qui est mon prochain ? Et le Jésus répond au verset 36, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? Vous voyez que c'est exactement le contraire de la question du docteur de la loi. Le docteur de la loi avait dit « Oui, mais qui est mon prochain ?» Et Jésus répond « Mais de qui cet homme a été, de qui de ces trois, lequel a été vraiment le prochain ?» En somme, le problème, ce n'est pas l'autre qui est mon prochain, mais c'est moi. De qui suis-je le prochain ? Et bon, ça, on relève très souvent cette bizarrerie du texte, n'est-ce pas ? En somme, Jésus renverse la situation. Le problème, c'est pas de savoir qui est mon prochain, mais de qui moi je suis le prochain, n'est-ce pas ? Alors, il faut voir les choses à l'envers d'après le Seigneur. C'est pas très très facile à comprendre. Mais je me suis demandé si cette réponse tellement bizarre de Jésus, qui renverse les choses, qui renverse la question, non pas qui est mon prochain, mais de qui moi je suis le prochain, n'était pas un petit peu la clé de toute cette histoire du bon samaritain. Et une clé qui peut nous aider à comprendre l'ensemble. Vous savez, les paraboles, c'est pas simple. Comme ça, ça a l'air tout simple, c'est une petite histoire comme on raconte aux enfants. Mais la pointe de la parabole, le véritable sens, n'est pas toujours simple à saisir. Quel est le sens de toute cette affaire, n'est-ce pas ? Quel est le vrai sens ? Alors, si on prend comme clé qu'il faut voir les choses tout à fait à l'envers et qu'on reprend un certain nombre de détails, c'est tout à fait étonnant. Par exemple, les versets 31 et 32. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Par hasard. Est-ce que c'est vraiment par hasard ? Vous avez remarqué que dans toute cette histoire, Dieu n'est même pas mentionné, n'est-ce pas ? Mais le hasard fait bien les choses, n'est-ce pas ? Le hasard, ça n'existe pas si nous pensons que Dieu est vraiment tout-puissant, qu'il sait toutes choses et qu'il est présent partout, n'est-ce pas ? C'est tout le contraire. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont arrivés là. C'est Dieu qui, en quelque sorte, les a mis là au pied du mur. Hein ? Tu es sacrificateur, tu es lévite. Hein ? Bon, qu'est-ce que vaut vraiment votre religion ? Est-ce que c'est la loi ? Tu vas au temple pour aller offrir les sacrifices, il ne faut surtout pas te souiller, n'est-ce pas ? Sinon, ça serait toute une affaire qui va durer toute une semaine, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est la loi ou est-ce que c'est la grâce, n'est-ce pas ? Quel est le vrai sens de la loi ? Vous vous souvenez ce que Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens, n'est-ce pas ? Hypocrites, vous donnez la dîme, de la menthe, du cumin, n'est-ce pas ? Quand vous mettez 10 feuilles de menthe dans votre théière, vous en réservez une pour donner la dîme, n'est-ce pas ? Mais vous oubliez ce qui est essentiel dans la loi, la justice, la vérité, la miséricorde. Vous oubliez l'essentiel. Par hasard, ils sont arrivés. Mais c'est peut-être juste le contraire. Ce n'est pas du tout un hasard, n'est-ce pas ? Un autre détail du texte aussi qu'il faut peut-être comprendre aussi complètement à l'envers. Quand le docteur de la loi dit, voulant se justifier, il dit, qui est mon prochain ? Voulant se justifier. Dès que nous lisons ce verbe, évidemment, nous réagissons, n'est-ce pas ? Voulant se justifier. Est-ce que c'est possible de se justifier ? N'est-ce pas ? C'est ce qu'a voulu faire le docteur de la loi. Mais c'est juste le contraire, n'est-ce pas, qui est arrivé. C'est pas possible de vraiment se justifier. Et pourtant, c'est ce que nous faisons sans arrêt. Ah oui, bien sûr, je reconnais, j'ai pas dit tout à fait la vérité, mais tu comprends, voilà, je pouvais pas, et puis quand même, c'était presque vrai, etc. On est tout le temps en train de se justifier, n'est-ce pas? C'est vrai, j'ai mal fait, mais enfin, j'étais fatigué, ou bien, vraiment, tu es très énervant. On est tout le temps en train de vouloir se justifier. Et pourtant, on ne peut pas vraiment se justifier. Il y a ce texte de l'Épître aux Romains, au chapitre 10, les versets 3 et 4, qui sont bien connus à cet égard, n'est-ce pas? À propos, justement, de ceux qui veulent se justifier par la loi, en ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car c'est Christ qui est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant, n'est-ce pas? En voulant se justifier, on ne se soumet pas à la justice de Dieu. Non pas la justice punitive, mais cette justice qui sauve, cette justice qui fait grâce, cette justice dont Dieu nous revêt. Voulant se justifier, et c'est justement le contraire, n'est-ce pas, qui est arrivé. Et même la bonne réponse du scribe au verset 36 et 37, n'est-ce pas, cette question de Jésus, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Il répondit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, n'est-ce pas ?» Eh oui, comment comprendre cette parole ? Le prochain, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Exercer la miséricorde, avoir pitié, être touché, en somme, aimer, n'est-ce pas? C'est vraiment au centre de toute cette histoire. C'est vraiment le grand problème. Il s'agit d'aimer. C'est simple. Le docteur de la loi a bien répondu. Hein? Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Toi qui la connais par cœur, toi qui l'enseignes constamment, toi qui es un docteur, est-ce loi de Dieu? Quelle est la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. C'est simple. Aimer Dieu. Nous connaissons aussi ce passage. Et nous le lisons, nous disons, c'est très bien. C'est cela qu'il faut faire. Il faut aimer Dieu de toute sa personne, de toutes ses forces. Nous aimons le Seigneur, n'est-ce pas? Mais enfin, la réalité n'est peut-être pas si brillante que cela. J'aime Dieu, mais vraiment, de tout mon cœur, de toutes mes forces, n'est-ce pas? Combien de fois je passe toute une journée sans penser à lui, n'est-ce pas? Sans prononcer même une petite prière. C'est cela, aimer Dieu de toutes ses forces, de toute sa personne. Il y a quand même là quelque chose qui est difficile, n'est-ce pas? Aimer Dieu, oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas, là aussi, prendre les choses totalement à l'envers, n'est-ce pas? Prendre conscience que c'est Dieu qui nous aime. C'est lui qui prend soin de nous. Prendre conscience que c'est lui qui nous aime pour pouvoir l'aimer vraiment. Le vrai problème, c'est peut-être ça, n'est-ce pas? Comment est-ce que nous percevons Dieu? Et pourtant, même si pendant toute une journée, nous n'avons même pas pu prononcer une petite prière, si nous n'avons pas pensé à lui, lui a pensé à nous pendant toute cette journée. Il nous a gardés, il a pris soin de nous. Bon, c'est vrai que notre situation pourrait être meilleure, mais elle n'est pas si mal après tout. On voit la main de Dieu dans beaucoup de détails dans nos journées, même si on l'oublie, même si ça nous semble normal, si on ne pense pas que ça vient de la main de Dieu, n'est-ce pas? Ces anges sont là pour nous garder, n'est-ce pas? Et lui-même a prouvé son amour envers nous, nous le savons, nous le redisons chaque dimanche, en donnant son Fils, en allant jusqu'à la croix. C'est l'épître de Jean qui nous rappelle cette priorité de l'amour de Dieu pour nous et non pas celle que nous, nous avons envers Dieu. Dans la première épître de Jean, au chapitre 4, les versets 9 à 20, il y a ce passage qui est tout à fait remarquable. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est lui qui nous a aimés le premier, nous devons le reconnaître et nous souvenir qu'il nous a aimés le premier en envoyant son Fils ici-bas mourir sur la croix dans l'humiliation et ainsi assurer le pardon de nos péchés, n'est-ce pas ? En somme, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous fait grâce. Et si je l'aime, c'est parce que je prends conscience qu'il m'a aimé le premier de toute sa personne jusqu'à envoyer son propre Fils pour aller jusqu'à la croix, n'est-ce pas ? Bien plus loin encore. Dans la première épître de Jean, au chapitre 4, un petit peu plus loin, nous avons, n'est-ce pas, ce verset 19. « Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. » Pour les spécialistes dans le texte, il y a certains manuscrits qui ont « pour nous, nous l'aimons », n'est-ce pas ? Et certains ont même ajouté « pour nous, nous aimons le prochain, nous aimons les autres parce qu'il nous a aimés le premier. » Mais vous voyez, ces rajouts essayent d'expliquer. En fait, pour nous, nous aimons tout simplement parce que lui nous a aimés le premier. Alors ce commandement qui pourrait nous écraser, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta personne, il faut le renverser. Seigneur, c'est toi qui m'as aimé comme ça. Et je veux le reconnaître dans tous les détails de ma vie. Et même parce que je suis ici ce matin, c'est vraiment ta grâce, c'est vraiment ton amour. Et tu m'aimes tellement, Seigneur, que je ne peux pas faire autrement que de t'aimer, toi aussi, comme tu m'as aimé, n'est-ce pas ? Alors, voilà, cette fameuse clé pour lire cette affaire du bon samaritain, nous pouvons aussi l'appliquer à cette première parole de l'histoire. Et puis, il y a celle qui suit, il y a le deuxième commandement, aimer son prochain comme soi-même. Le docteur de la loi, qui était un homme intelligent, mais qui était honnête aussi, reconnaissant son honnêteté jusqu'au bout, jusqu'à confesser que c'est le Samaritain qui avait raison. Ces horribles Samaritains, n'est-ce pas ? C'est lui qui avait raison. Eh bien, cet homme a dit, mais aimer mon prochain, mais qui est mon prochain, n'est-ce pas ? Là aussi, il faut peut-être renverser les choses. Nous nous efforçons d'aimer les autres, nous faisons pas mal d'efforts de toutes sortes, n'est-ce pas ? Et nous y arrivons quelquefois. Mais là aussi, c'est pas toujours très, très brillant, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il ne faudrait pas penser aussi à l'amour des autres pour nous ? Après tout, certains pensent que personne ne les aime, n'est-ce pas ? Qu'ils sont seuls au monde. Et pourtant, dans notre vie, nous avons bien eu l'occasion de bénéficier de la miséricorde, de l'amour, de la sympathie d'un tel, d'une telle, n'est-ce pas ? Je pense que tous nous pouvons dire cela, reconnaître que nous avons été aimés par le Seigneur, certainement, mais aussi par pas mal de personnes autour de nous. Et c'est tellement important de prendre conscience de cela. C'est pas seulement nous qui devons aimer les autres malgré tout, même s'ils sont pas aimables. Ce sont les autres aussi qui nous aiment. Et nous ne sommes pas toujours aimables, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas toujours sympathiques. Souvent, il faut nous supporter, n'est-ce pas ? Et on nous supporte. On nous supporte et on nous aime malgré tout. Mais nous devons être reconnaissants pour cela, n'est-ce pas ? Aimer le prochain, pourquoi ? Parce que le prochain nous aime. Qui a été le prochain de cet homme ? Nous avons autour de nous, n'est-ce pas, des prochains, c'est-à-dire des personnes qui nous font du bien, qui nous ont aimés, qui nous ont rendu service. Nous pouvons être reconnaissants pour cela. Et aimer les autres, eh bien, c'est cela aussi, c'est reconnaître que les autres nous aiment. Après tout, qu'est-ce que c'est aimer, n'est-ce pas ? Aimer, c'est être touché par, c'est voir et s'arrêter essayer de faire quelque chose, de secourir, être touché par la souffrance, par la détresse des autres et agir. Et Dieu a eu compassion de nous. Il a agi. Puisque nous sommes ici ce matin, n'est-ce pas ? Il nous a sauvés. Et pas mal de prochains ont eu aussi, au cours de notre vie, compassion de nous. J'en prends conscience et je peux moi-même devenir le prochain de beaucoup d'autres, être aussi ému de compassion pour tous ceux qui souffrent, n'est-ce pas ? En somme, il faut prendre les choses à l'envers. J'aime Dieu parce que lui m'a aimé le premier. Je peux aimer le prochain parce qu'après tout, il y a pas mal de gens qui sont quand même sympathiques avec moi, n'est-ce pas ? Et qui m'aiment. Je peux aimer les autres. C'est cet amour de Dieu qui a été premier qui est pour moi vraiment le modèle. Il faut penser autrement, n'est-ce pas ? Il faut un renversement de notre intelligence. Et donc, j'aimerais citer maintenant ce fameux texte de Romains chapitre 12 et verset 2 qui nous rappelle cela. Ne vous conformez pas au monde présent égoïste, moi d'abord, n'est-ce pas ? Mes intérêts d'abord, après on verra les autres si on peut s'en occuper. Ça c'est le monde présent. Ne vous conformez pas. Les chrétiens sont des anticonformistes. Ils pensent autrement, après tout c'est permis, n'est-ce pas, de penser autrement. Ne vous conformez pas au monde présent. Mais soyez transformés. Le mot qui est employé, c'est la métamorphose, n'est-ce pas, comme la chenille qui devient un papillon. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Eh bien, que le Seigneur nous aide à penser autrement aujourd'hui, à aimer le Seigneur parce qu'il nous a tellement aimés et à aimer les autres aussi de la même façon. Voilà, cette histoire du bon samaritain, je crois qu'il faut la relire, mais avec des yeux tout neufs, n'est-ce pas ? Il y a des choses tellement choquantes et des choses tellement bizarres, mais qui sont aussi très précieuses pour nous. Prions ensemble. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas compris vraiment ta parole. Tu vois tous nos efforts pour essayer d'obéir à ta parole, d'obéir à ses commandements. Et nous avons tellement de mal d'être à la hauteur de la situation. Seigneur, cet amour qui devrait remplir notre cœur, que nous puissions vraiment le reconnaître chez toi d'abord. Merci, Seigneur, pour le soin que tu prends de nous chaque jour dans tous les détails. Merci, Seigneur, pour l'amour des autres aussi. Tous ceux qui nous ont aidés, qui nous supportent jour après jour, qui nous montrent de l'amour, et quelquefois nous ne nous en apercevons même pas. Seigneur, nous t'en demandons pardon. Aide-nous à aimer comme toi-même tu nous as aimés. Seigneur, fais cela par la puissance de ton Saint-Esprit. Lui seul peut transformer nos cœurs durs et égoïstes. Lui seul, Seigneur, peut nous montrer comment aimer, peut nous apprendre ce que c'est d'aimer. Merci Seigneur pour ta parole, pour cette histoire qui est impressionnante. Que nous puissions nous en souvenir, que tu bénisses pour nous cette journée, les moments qui vont suivre, que tu remplisses nos cœurs de compassion et d'amour, de joie et de reconnaissance aussi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.